Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous hebdomadaire. Nous allons revenir sur une rencontre que vous avez vécue en début de semaine, ce lundi de Pâques. Vous avez rencontré la communauté musulmane à Tarbes. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord pourquoi, à quelle occasion vous les avez rencontrés et puis comment ça s'est passé?
Eh bien, c'est une grande première. Le père André Pastor m'a exposé, parmi ses activités, le fait qu'il anime le groupe des amitiés islamo-chrétiennes ou de rencontres islamo-chrétiennes. Et donc, je dis que je souhaiterais un jour avoir l'occasion de rencontrer la communauté musulmane, si eux-mêmes étaient d'accord pour cela. De même que j'ai aussi le désir de rencontrer la communauté juive, que je sais assez réduite à Tarbes, mais j'ai quand même le désir de les rencontrer aussi. Et donc voilà, et puis un rendez-vous a été pris une première fois, puis un changement d'imam a différé la rencontre. Et finalement, elle a pu avoir lieu lundi soir, lundi de Pâques pour nous. Et pour eux, c'est en plein mois du Ramadan. Et donc, c'était une occasion très très intéressante pour moi aussi de découvrir pour la première fois les rites qui accompagnent la rupture du jeûne au soir de chaque jour de ce mois de Ramadan. Et donc, on avait rendez-vous alors avec le père Pastor, le père De Antonio, qui est responsable de la pastorale des migrants pour notre diocèse, et puis un certain nombre de catholiques, membres de ce groupe d'amitié islamo-chrétienne. On avait rendez-vous devant la mosquée, et puis nous avons été accueillis, on s'est installés avec un certain nombre de personnes qui étaient là, à la fois l'imam lui-même, et puis les membres de l'association, qui est le support juridique de la communauté de la mosquée, de la communauté musulmane. Donc le président, le secrétaire, etc., etc. Et puis un certain nombre de membres de la communauté, de membres actifs de la communauté, hommes et femmes. Et donc chacun s'est présenté, a exposé un petit peu ses liens avec les rencontres islamo-chrétiennes, existantes pour certaines depuis très longtemps, tout à fait inexistantes pour d'autres, mais... Ils ont souligné, les personnes qui nous accueillaient, combien ils étaient honorés que l'évêque vienne les rencontrer chez eux pour la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'ils rencontraient l'évêque, mais chez eux, c'était la toute première fois. Et ils étaient extrêmement heureux de cette occasion. Et puis l'heure a tourné. Et à un moment très très précis, universellement déterminé pour le monde musulman, l'heure de la rupture du jeûne a sonné, et à ce moment-là, beaucoup de gens avaient rejoint la mosquée, et symboliquement, nous avons avalé un demi-verre de lait trois dattes avant d'assister sagement, depuis le fond de la salle de prière, à un temps de prière animé par l'imam pour la communauté musulmane. Donc on a sagement observé avec beaucoup de respect, de bienveillance. Et après quoi, un repas formidable nous a été servi par la communauté qui était extrêmement heureuse de partager ce qu'ils avaient de meilleur. Et voilà.
Pour vous, c'est important ces moments qui sont à la fois des moments de rencontres spirituelles, pastorales pour vous, mais aussi des moments de fraternité. Il y a quelque chose là à sceller ou à entretenir?
Bien, de toute façon, depuis le Concile Vatican II, des choses extrêmement importantes ont été inscrites dans la doctrine de l'Église catholique à propos du regard que nous devons porter dans la foi sur les croyants d'autres religions. D'ailleurs, le Vendredi Saint, une des intentions de la longue prière universelle de l'Office de la Croix, nous invite les catholiques à prier pour les croyants d'autres religions, et en particulier pour ceux qui, comme nous, croient au Dieu unique. Et donc, c'est aux musulmans et aux juifs que nous pensons, en disant cela en particulier. C'est une grande tradition catholique que d'établir ces liens d'amitié. Les papes le font sans cesse et très très fortement, nous invitant à nous-mêmes changer notre regard sur ces frères croyants d'autres religions. Non pas pour dire que tout se vaut, que tout est pareil finalement, que l'essentiel c'est de croire en quelque chose, il ne s'agit pas de cela. Mais dans le respect, dans l'estime, et autant que cela est possible, dans l'amitié sincère entre croyants, entre gens qui croient qu'il y a un Dieu, que la transcendance l'emporte sur l'horizontalité, sur le matérialisme, nous nous découvrons partenaires de valeurs qui peuvent être mises au service de la société pour un plus. Alors il ne s'agit pas de gommer évidemment les différences et puis de gommer aussi des tensions et des difficultés qu'il y a pu y avoir dans l'histoire. Mais aujourd'hui, nous sommes invités à entrer en amitié sincère avec les croyants des autres religions pour tirer l'humanité vers le haut, c'est-à-dire vers le ciel.
Alors l'autre point que nous allons aborder avec vous aujourd'hui, Monseigneur Mika, c'est la reprise des pèlerinages au sanctuaire de Lourdes. Ça fait du bien. Les pèlerins sont revenus nombreux déjà pendant la Semaine Sainte et déjà au cours de cette semaine. Là, on voit les pèlerinages revenir, alors des familles, des pèlerins individuels et puis des pèlerinages qu'on avait un petit peu perdu de vue depuis les années Covid. Là, le sanctuaire de Lourdes ouvre à nouveau ses portes pleinement en accueillant ces grands groupes et ça fait du bien. Ça fait du bien à nous, Bigourdan, ça fait certainement du bien aussi à vous, évêque de Tarbes et Lourdes.
Ben, ça fait du bien à tous ceux qui, à Lourdes, travaillent depuis des mois pour préparer l'ouverture de la saison, comme on dit. Et ça fait du bien de revoir le sanctuaire dans ses couleurs, dans les couleurs pour lesquelles il est fait, finalement. Et donc, en effet, il y a énormément de monde dans le sanctuaire, dans les rues proches du sanctuaire. Les hôteliers sont eux-mêmes surpris par les réservations au long cours qui sont enregistrées. Et donc, tout cela est de bon augure. Tout le monde a le sourire et est heureux de retrouver Lourdes, finalement. Et notamment des gens qui, encore l'année dernière, étaient frileux. Des gens d'Irlande ou des Italiens qui sont bel et bien là désormais, rassurés sur le fait qu'ils peuvent venir en toute sécurité par rapport au Covid, et en tout cas pas moins sécure que chez eux. et donc voilà, en effet, il y a beaucoup beaucoup de monde, les chapelains sont sur le pont et la communauté d'accueil est au travail. Et tout le monde a le sourire parce que, tout le monde piaffait un peu d'impatience de retrouver la raison d'être de leur engagement à Lourdes.
Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, ça fait beaucoup de bien d'être quelquefois un petit peu coincé dans les bouchons rue de la Grotte. Pour vous, évêque de Tarbes et Lourdes, qu'est-ce que cette reprise de la saison va changer dans votre emploi du temps? Certainement que vous allez passer encore plus de temps au sein du sanctuaire, peut-être à la rencontre de pèlerins parfois, quand vous le pourrez?
Eh bien, en effet, beaucoup de groupes de diocèses ou de pèlerinages, de grands pèlerinages, en avance sollicitent que je préside une messe, que j'accueille ici ou là, etc. etc. Donc forcément, ce sont des impératifs dans mon agenda qui viennent fortement marquer mes journées et mes semaines. De manière tout à fait régulière, j'ai décidé de reprendre l'idée de recevoir à ma table une fois par semaine, d'inviter en tout cas tous les évêques présents à Lourdes une fois par semaine. Donc le jour choisi, c'est le mercredi, puisque le matin il y a la messe internationale à la basilique Saint-Pilis, et que c'est là qu'en gros la plupart des évêques se trouvent avec leur pèlerinage, les diocèses qu'ils accompagnent. Et donc, après la messe à Saint-Pilis, à laquelle je participe ou je ne participe pas, évidemment, j'ai mon propre agenda, mais en tout cas, je les reçois au chalet après la messe pour un temps d'échange, de partage. Et mercredi dernier était la toute première fois où cette rencontre avait lieu. 11 évêques étaient présents sur 15 invités, je crois. La plupart anglophones, francophones. Et puis un Italien, l'évêque de Vérone. Et j'ai pu percevoir que par ce temps fraternel partagé d'1h30, très très sympathique, eh bien ce serait pour moi l'occasion de rencontrer énormément de réalités de l'Église universelle, et d'avoir un petit écho par la voix de leurs évêques de bien des régions du monde. Et ça me réjouit à l'avance.
Voilà, donc cette saison qui est lancée, qui est bien lancée au sanctuaire de Lourdes, et c'est une joie vraiment pour les Lourdais et pour tous les Bigourdans. Ce dimanche, c'est le dimanche de la miséricorde. Un point sur ce dimanche, ce jour de prière, une semaine après le dimanche de Pâques. Peut-être est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous redire ce que c'est que la miséricorde. Qui est Dieu miséricordieux ?
La miséricorde, c'est ce qui déborde, cette attitude, ce sentiment, cette réalité qui déborde du cœur de Dieu. C'est l'amour plus fort que tout ce qui l'abîme, de même qu'à Pâques nous venons de célébrer la vie plus forte que tout ce qui l'abîme, eh bien c'est le prolongement de cette générosité de Dieu. La vie qui déborde, elle prend forme de miséricorde lorsque nos vies à nous sont marquées non seulement par la mort, mais aussi par le péché et par le mal, sous toutes ses formes, et le mal auquel nous coopérons par le péché, par notre propre péché. Et donc la miséricorde, c'est le prolongement de Pâques finalement, hein, c'est le prolongement de l'amour plus fort que tout ce qui l'entrave et qui l'abîme. Et donc c'est un des éléments majeurs du message évangélique, de la bonne nouvelle que le Christ confie à l'Église de la part du Père et dont nous devons témoigner. Voilà. Et donc le dimanche de la miséricorde, dans la grâce de Saint Jean-Paul II et de sœur Faustine Kozalka, Jean-Paul II a institué ce dimanche de la miséricorde pour justement marquer, imprégner fortement l'Église de cette réalité, de cette grâce et de cette mission que le Seigneur lui confie.
Ce dimanche, c'est aussi le jour du départ pour vous. Vous allez partir en Jordanie pour quelques jours. Alors, nous en reparlerons dans une émission à venir que nous allons enregistrer avant votre départ. Voilà, vous partez donc en Jordanie pour une semaine. Mais vous, évidemment, vous partez avec la Bigorre dans votre cœur.
Toujours, où que j'aille. Mais en effet, j'ai été invité par le père Rifat Bader, un prêtre jordanien, un curé jordanien, en lien avec le ministère du tourisme de Jordanie, invité à me rendre dans un sanctuaire où est reproduite la grotte de Lourdes en Jordanie, et où s'était rendu déjà Mgr Brouvet. Et donc le père Bader a invité le successeur de Mgr Brouvet à venir à son tour visiter ce lieu, et c'est un événement auquel il donne un petit peu d'importance puisqu'il invite quelques journalistes français à m'accompagner. Et puis sur place, j'ai vu dans le programme qu'il était prévu que je rencontre quelques autorités à la fois du gouvernement jordanien, ministre du tourisme et autres, et puis quelques autorités de l'Église catholique présentes sur place, le nonce apostolique, le patriarche de ceci, de cela, de telle communauté, etc., etc. Et puis des responsables aussi des communautés musulmanes locales.
Merci beaucoup, Mgr Jean-Marc Mika. Donc on vous retrouve dans un prochain entretien pour poursuivre ce sujet de ce voyage en Jordanie. En tous les cas, on vous souhaite un bon voyage.
Merci beaucoup, très bonne semaine à tous.